Question d'islam par Al Bensheikh. Aujourd'hui, nous parlons de ces destins antagoniques, croisés, divergents des jeunes djihadistes et des jeunes militaires français, le plus souvent de confession islamique. Et pour évoquer ce sujet, j'ai plaisir à accueillir Eliamine Setoul. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes sociologue, maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers, et vous vous intéressez dans vos études et dans vos recherches aux motivations totalement opposées de ces jeunes gens, plus souvent des garçons, mais il y a aussi des jeunes filles, qui, pour certains, choisissent d'être des djihadistes. On aura expliqué le mot, cette entreprise de la radicalité, comme certains l'appellent, et les autres, dans les mêmes conditions presque, choisissent plutôt de s'enrôler dans l'armée régulière. Première question pour vous, Yamine Setoul, dans les proportions, on est dans les mêmes nombres ou il y en a davantage, ça pèse d'un côté que de l'autre?
Oh non, il y a beaucoup plus de soldats français de confession musulmane que de djihadistes, et Dieu merci.
Vous le dites sous la voûte commune de la laïcité.
Tout à fait, bien sûr. Toujours. Non, je pense qu'il y a beaucoup plus de militaires français de confession musulmane. On n'a pas de statistiques officielles, mais certains parlent de 10-15% de soldats français de confession musulmane sur une institution qui fait 200-250 000 personnes. Ça voudrait dire qu'on est aux alentours de 20 000, 25 000. Alors que le nombre de djihadistes français, enfin l'estimation du nombre de djihadistes français est environ de 2000.
Donc on est tout et pour tout dans un rapport de 1 à 10.
Tout à fait. Donc ce qui montre aussi au passage le creuset français marche peut-être un petit peu mieux que ce qu'on veut bien parfois entendre dans les médias.
Vos motivations propres, Eliamine Setoul, c'était de dire qu'on a des jeunes gens à peu près, mais pas exclusivement, dans les mêmes conditions, dans la même configuration. Certains choisissent d'aller vers l'entreprise meurtrière, djihadiste, et de s'insurger contre leurs propres compatriotes et la nation. Et d'autres, bien au contraire, bon, vous dites que ce sont ceux-là les plus nombreux, pour les mêmes motivations, ou presque, sauf qu'elles ne sont pas meurtrières celles-là, elles paraissent même vertueuses, veuillent défendre la nation.
Oui, tout à fait. En fait, si on veut bien comprendre ma démarche, le point de départ, c'est ma thèse de doctorat que j'ai fait sur l'engagement des jeunes dans l'armée. L'engagement des jeunes issus d'immigration dans l'armée, je l'ai faite un peu après 2005. À l'époque, peu s'intéressaient, c'était juste après les émeutes, donc peu s'intéressaient on parlait plutôt de discrimination, des affiliations, de banlieue, etc. Mais on parlait peu des jeunes en fait qui voulaient intégrer une institution qui est quand même assez emblématique de la République et de la nation. Et donc je me suis intéressé à cette question. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui motivait ces jeunes issus de l'immigration à rentrer dans l'armée française. Et donc j'ai identifié trois grandes catégories. Une première, c'était des jeunes qui rentraient parce que dans la famille il y avait une tradition militaire. Des petits-fils de tirailleurs, des petits-enfants de harkis, etc. Et qu'il y avait une espèce de socialisation familiale qui les amenait à intégrer cette institution. Une seconde catégorie, c'était des jeunes un peu plus diplômés qui avaient fait l'expérience des plafonds de verre dans l'université française. Donc ils envoyaient leur CV, ils avaient des difficultés à trouver des jobs à leur hauteur, je dirais, scolaire, culturelle. Et puis qui trouvaient dans l'armée une possibilité d'intégration, parce que l'armée... On peut certes la critiquer, mais il y a un point qui ressort très, très fortement, c'est qu'elle ne discrimine pas à l'entrée. C'est-à-dire qu'elle accueille tous les jeunes, quelle que soit leur adresse, leur origine, leur faciès, leur couleur de peau, etc. Et enfin, la troisième catégorie qui nous intéresse un petit peu plus, c'était des jeunes, j'avais appelé des engagés en rupture, des jeunes qui venaient de familles avec des trajectoires assez chaotiques, en échec scolaire, le père absent très souvent, et puis qui était surtout dans une espèce de quête à la fois de cadre structurant, d'identité positive, de valorisation narcissique. Et en fait, c'est cette catégorie qui m'intéresse pour comprendre aujourd'hui l'engagement des djihadistes. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Il y a à la fois des trajectoires familiales assez complexe, même si on sait qu'il y a des djihadistes qui viennent de familles tout à fait bien intégrées. Il y a quand même un très gros noyau de jeunes qui viennent de familles en difficulté. Il y a beaucoup d'échecs scolaires. Le rapport de Marc Ecker montrait par exemple que dans son étude, 50% des djihadistes ou des radicalisés n'avaient aucun diplôme. Donc on retrouvait quand même des points communs dans à la fois le désir de valorisation narcissique, la quête d'identité positive, la quête d'une structuration identitaire. Et en fait, je fais le parallèle entre les deux. Et j'avais aussi dans ces jeunes qui rentraient dans l'armée, ce que j'appelais des origines mythifiées. Alors soit c'était le pays d'origine qui était mythifié, le pays d'origine des parents, le Maghreb, les pays du Maghreb, pays d'Afrique noire, etc. Comme si la France, c'était le mauvais pays et le pays d'origine des parents, c'était le bon pays. Mais quand on creusait un petit peu dans les entretiens, on se rendait compte que leur connaissance était relativement limitée des pays d'origine. C'était plutôt une connaissance estivale, je dirais, donc une semaine ou deux l'été. Et puis, il y avait aussi la dimension religieuse qui était mythifiée. L'islam au-dessus de tout, etc. Ça. Même si parfois, il n'y avait pas du tout de pratique.
Et on sait que la nation islamique, enfin la communauté, la Oumma, étant une nation supranationale,
tout en quelque sorte. Et en fait, cette identification leur permettait de se séparer de leur quotidien, en fait. Un quotidien de mésestime d'eux-mêmes, un quotidien parfois de discrimination, réelle ou supposée, un quotidien d'une vie sans piment, quelque part, sans sel, quoi. Et donc, c'était plus un rejet de la société d'ici qu'une adhésion à la société de là-bas, des parents, etc., etc. Donc, j'ai creusé ça. Et puis après, si on veut pousser un peu plus le bouchon, on se rend compte que dans l'engagement religieux, le religieux radical, enfin l'engagement religieux et dans l'engagement militaire, on a aussi des points communs. On a des points communs à la fois dans le fait de trouver une espèce de figure paternelle. Quand un jeune rentre dans l'armée, son chef, son gradé, l'officier, etc., joue une espèce de rôle de père symbolique. Et puis dans une mosquée, c'est vrai que l'imam peut aussi jouer ce rôle de père. Il y a aussi les techniques du corps. Dans l'armée, on est obligé de s'entraîner. Il y a une ascèse par rapport à la rigueur physique, etc.
Il y a le chant, vous en avez parlé.
Le chant,
tout à fait. Enfin, vous en avez parlé, vous aviez écrit dans vos écrits. C'est pour ça que je l'ai su. Donc le chant est tout aussi structurant.
Tout à fait, j'ai fait le parallèle entre les chants militaires qui permettent de créer des frontières. Chaque régiment a son chant, enfin a ses chants. Et on sait que dans les mouvances djihadistes, il y a les anachides, donc les récitations, les poèmes chantés, etc., etc. Et j'ai fait aussi ce parallèle.
Les hymnes ou cantilés chantés dans le cadre religieux, oui.
Il y a aussi le travail sur le corps, c'est-à-dire que l'engagement militaire implique un entraînement physique régulier. On sait que dans l'islam, l'islamité implique aussi une rigueur corporelle, se lever tôt le matin pour la prière de l'aube, faire le ramadan, etc., etc. Donc je trouve intéressant de creuser tous ces aspects. Et d'une certaine manière, l'actualité m'a donné raison parce qu'on sait aujourd'hui que beaucoup de djihadistes ont tenté d'intégrer les métiers militaires. Un des exemples les plus connus, c'est Mohamed Merah, bien sûr, qui avait tenté la Légion étrangère, qui avait fait un jour de test et puis qui est parti le soir même, donc qui n'a pas fait le deuxième jour.
C'est lui qui est parti ou il a été recalé parce que d'aucuns disent qu'on ne l'avait pas accepté?
Alors moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il avait été, il est parti de son propre chef parce qu'en général, on peut quand même finir les tests physiques. Hein, on ne vous vire pas au milieu de la série de tests. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête là. Et on peut imaginer qu'il y a là une bifurcation biographique. Peut-être que s'il avait fait la deuxième journée de tests, peut-être qu'on aurait pu imaginer qu'il serait devenu un légionnaire français, etc. C'est des choses qui... Et je trouve ça intéressant, cette dimension processuelle, cette dimension de bifurcation biographique, des petits choix qui ont des conséquences extrêmement, extrêmement grandes par la suite.
Il y aurait parmi les djihadistes, ces aventuriers de la terreur, ceux qui ont été éconduits quand ils ont frappé à la porte de l'armée?
Oui, alors éconduits... faudrait avoir accès au dossier, mais soit ils ont été éconduits parce qu'il y a une forme d'immaturité chez eux, et l'armée recrute massivement, mais elle fait quand même attention à qui elle recrute, parce qu'on veut pas permettre à des jeunes de porter des armes sans savoir que psychologiquement c'est tout à fait stable et sûr. Peut-être qu'il y a eu des phénomènes de discrimination, ça existe aussi, même si, grosso modo, moi ce que j'ai pu voir, c'est que l'institution militaire est plutôt ouverte, hein, elle a tout intérêt à avoir beaucoup de jeunes de partout, puisque plus on a de jeunes et plus on peut sélectionner et plus on a de la qualité. Oui, il faudra avoir accès au dossier pour en savoir un petit peu plus. Mais effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui ont tenté, qui n'ont pas réussi. à la fois les armées et également la police, visiblement. On a beaucoup de jeunes qui ont tenté d'intégrer les armées
et
la police.
Des métiers d'armes, des corps d'armes.
Des corps d'armes où la virilité est importante, où il y a une dimension aussi narcissique, donc le combattant. D'ailleurs, quand on voit les stratégies de communication de Daesh, de propagande, on voit toujours ces combattants très virils, encagoulés, type ninja, etc.
Oui, et en utilisant les techniques vues dans Matrix et
exactement,
d'autres.
Exactement, inspirées des blockbusters hollywoodiens. Et puis, les techniques de communication du ministère de la Défense français et des armées occidentales de manière plus générale sont de plus en plus axées sur ces images de combattants hyper virilisés qui ressemblent parfois même à des combattants de jeux vidéo. Des jeux qui sont très en vogue aujourd'hui dans notre jeunesse.
Oui. Pour revenir à ce qu'on appelle, en termes techniques, la cristallisation multidimensionnelle et cette approche plurifactorielle, donc ces différents paramètres qui mènent un jeune homme, puis on verra le cas des jeunes filles, à la radicalisation. Vous dites qu'il y a eu des cas, ce qu'on appelle la radicalisation express, c'est-à-dire que on se convertit à la tradition religieuse islamique si on n'était pas musulman, et très tôt, dans les jours qui suivent, on se retrouve sur le théâtre des opérations en Syrie, en Irak, chez Daesh. Ça, c'est pour l'entreprise djihadiste. Et pour l'institution militaire, il y a aussi des étapes.
Oui, alors j'ai retrouvé cette même idée de bifurcation. J'ai vu dans l'armée des jeunes qui rentraient parce que c'était urgent, il fallait trouver quelque chose. Ils avaient 18 ans, ils n'avaient plus accès, ils n'allaient plus à l'école, ils n'avaient pas d'accès à des aides sociales. Et donc, il fallait rentrer quelque part. Et puis, l'armée présente l'avantage à la fois de vous héberger, de vous donner une solde. Donc, elle vous assure un minimum de sécurité sociale, je dirais.
Pour rétablir cette analogie, est-ce que, au niveau de l'armée, vous y avez répondu, on y va parce qu'il y a une certaine urgence? Et puis, on est heureux d'être accepté.
Oui, tout à fait.
Et la chose aussi se traduit d'une manière similaire dans l'entreprise djihadiste. On se convertit, parce qu'il faut être pour les criminels de Daesh, au moins d'une manière formelle, de confession islamique. Et on y va. Parfois, on ne sait même pas prononcer l'attestation de foi. Et on est tout de suite opérationnel, ou presque. C'est-à-dire qu'on ne manie pas peut-être tout de suite les armes. Et on passe par des stages d'entraînement.
Oui, c'est tout le débat entre salafisme et djihadisme, entre Gilles Kepel et Olivier Roy. Est-ce que les djihadistes sont des salafistes? Moi, je crois qu'il y a des salafistes parmi les djihadistes. Mais l'immense majorité, c'est quand même, il me semble, des jeunes qui avait pas une grande socialisation religieuse au départ, qui côtoyait pas les associations musulmanes, qui était pas forcément dans une orthopraxie. Et dans les deux cas, on a aussi des jeunes qui parfois ont rencontré quelqu'un. On sait que la région de Nice, par exemple, à elle seule a envoyé 200 djihadistes en Syrie parce qu'il y avait localement un recruteur physique, Omar Diaby, qui a fait ce travail de sape auprès de la jeunesse. Et j'ai vu des jeunes qui entraient dans l'armée qui avaient rencontré quelqu'un, un militaire, par hasard ou dans un lycée ou dans un collège lors d'une journée d'orientation et qui, trois jours après, sont rentrés dans l'armée. Donc il y a cette même dimension de virage biographique très important. Après, peut-être que dans cette radicalisation express chez les djihadistes, il y a peut-être aussi une dimension, et ça reflète la génération actuelle, des jeunes qui veulent tout de suite en fait. C'est-à-dire que le salafiste, c'est quand même une vie contraignante. Vous devez tôt le matin, vous devez respecter un certain nombre de prescriptions religieuses, etc. Le djihad, quelque part, c'est le paradis sans prendre l'escalier, c'est l'ascenseur. Quoi. Je prends l'ascenseur, je me bats, et puis si je meurs là-bas, j'ai accès au paradis tout de suite. Quoi.
Et il y a tout là-bas, depuis le cadre sécurisant sur le plan psychologique, l'ivresse d'un nous fusionnel qui est là aussi, l'expérience du nous, en quelque sorte. Et puis, vous avez même parlé au niveau des rapports charnels, il y a une disposition sur les questions sexuelles qu'on peut pas avoir ailleurs. Donc, on a quasiment tout ce qui flatte les sens et ce qui valorise, y compris l'aspect narcissique.
Moi, dans mes formations, j'utilise le logo de McDonald's qui dit « Venez comme vous êtes ». Et Daesh, c'est un petit peu ça, c'est un espèce de supermarché qui dit aux jeunes, vous voulez de l'action, de l'adrénaline, vous allez en avoir chez nous, à travers les combattants qu'ils mettent en scène, etc. Vous voulez du religieux, du paradis, venez chez nous. Vous voulez du romantisme, ça c'est plus pour les filles, venez chez nous. Vous voulez du sexe, vous en aurez, etc. etc. Et je crois que la force de Daesh est véritablement ça, c'est d'offrir une large palette de ressources, sans compter aussi la dimension affective, hein, parce qu'on rejoint un groupe avec des liens très forts, des liens chaleureux. Quand on vient d'une famille un peu éclatée, qu'on a une situation sociale difficile, un échec scolaire, on est dans une dévalorisation de soi, et qu'on n'a pas forcément grand-chose à perdre finalement en France, ça peut être quelque chose d'assez attractif.
Et alors comment expliquez-vous, je vous le dis même si ce n'était pas le théâtre de vos études, qu'il y a 90 nationalités, parmi celles-là il y a des Néo-Zélandais, des Australiens, ceux qui sont aux antipodes même des préoccupations de ce qui se passe et des foyers de tension en Proche-Orient. Il y a même l'argument de l'humiliation qui est irrecevable. Ils ne sont pas concernés. C'est quoi? C'est une nouvelle vie? C'est le millénarisme? C'est le nihilisme? C'est une approche apocalyptique des choses? C'est une
Je crois
fin.
Que, oui. Du point de vue technique, déjà, on sait qu'Internet a permis de décupler le message djihadiste sur la toile. Si on regarde la génération afghane, par exemple, dans les années 80, Internet n'existait pas, en tout cas dans ses usages civils. Il y avait beaucoup moins de nationalités. Il y avait des combattants arabes qui venaient de plein de pays, mais c'était quand même assez restreint. Là, c'est vrai que Internet a permis d'attirer des Singapouriens, des Argentins, des Japonais, etc., etc. Le second facteur, je pense que c'est la possibilité d'aller en Syrie est assez simple. En fait, il suffit d'aller en Turquie, de passer la frontière. Ça aussi, d'un point de vue technique, ça aide à globaliser le djihad. Et puis, je pense qu'il ne faut pas négliger la dimension de grand projet. C'est-à-dire qu'on voit Daesh comme une entreprise sanguinaire, mais Daesh s'est vendu comme un grand projet, quoi. Un grand projet aux antipodes de ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez 20 ans, vous voulez vibrer à travers une idéologie. Les mouvances d'extrême gauche sont essoufflées. Le djihad, en tout cas l'islam, apparaît comme la dernière idéologie de contestation, finalement, à l'échelle internationale. Donc il y avait aussi cette dimension, je pense, derrière le projet.
Et dans la controverse, Kepel Roy, désormais connu ainsi, du nom de Gilles Kepel et d'Olivier Roy. Alors, selon vous, même si j'ai ma petite réponse, c'est que pour nos amis auditeurs, c'est la radicalité qui s'est islamisée en quelque sorte, ou est-ce que c'est l'islam qui s'est radicalisé?
Je crois que les deux, en fait, ont raison. Et même, on pourrait ajouter François Burga, qui est plus sur une dimension géopolitique, domination occidentale au Moyen-Orient, etc. Mais je pense que structurellement, le phénomène est quand même plus lié à une islamisation de la radicalité. Même si,
Qu'une
radicalisation de l'islam, parce que, on peut avoir la lecture de est-ce que c'est l'islam, est-ce que c'est le Coran, etc. Moi, je préfère, peut-être que c'est un biais de sociologue, d'anthropologue. Je préfère d'abord m'intéresser aux hommes et de voir pour quelles raisons ils s'approprient tel lexique, telle lecture de l'islam. Parce qu'à mon avis, il y a toujours une dimension sociale aussi dans l'appropriation d'une certaine lecture de la religion. J'interviens régulièrement en prison et on sait qu'on n'a pas affaire, bien évidemment, à un bloc homogène dans ces revenants de Syrie. Je pense que, il y a dans ces groupes de jeunes des espèces de leaders minoritaires qui vont être un peu plus au fait des questions religieuses, arabisants, qui vont connaître comme ça des bribes de religion, des sourates, qui s'inscrivent plus dans cette approche képélienne, en fait, de jeunes qui sont radicalisés à travers l'islam, qui vont être des leaders et attirer des jeunes qui sont un peu plus paumés, dans une quête comme ça d'avoir un chef qui les guide religieusement, etc. etc. Donc je pense que structurellement, c'est plutôt une islamisation de la radicalité, mais qu'il y a dans ce groupe, assez hétérogène, des leaders qui peuvent être plus dans une radicalisation de l'islam et qui vont jouer de leurs connaissances religieuses pour essayer de fasciner un petit peu des jeunes qui souvent ont des trajectoires assez chaotiques, hein, et qui vont s'inscrire et suivre ces leaders, pour pas dire ces gourous.
يدير لحنا منا 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 يا منا هروب من المحنة زدح حتى قصد البلاد قريب ما كاين اللي يرحم لحبيب لا قريب ديك بلا راس شحال قدو ما يهرب من البرما والكسكاس غبرنا وغبرنا وما خلينا ما درنا يا بنادم شوف تشوف تيا ما تشوف راه المية راه المية 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 ما تبرد الجوف صبر 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 راهي تبر نعاني وتعاني باش تموت هو.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de ces trajectoires opposées, en tout cas antagoniques, avec des motivations similaires, mais aux résultats antithétiques, entre les jeunes engagés dans l'entreprise djihadiste et les jeunes qui sont enrôlés dans l'armée, l'institution militaire, notamment en France. C'est Eliamine Setoul qui nous en parle, sociologue, anthropologue, maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers. Eliamine Setoul, quand on voit la sociographie de ces jeunes gens, ben, ceux qui sont dans des familles éclatées, des trajectoires chaotiques, des destins brisés, vraiment abîmés, mais ce n'est pas la totalité d'autres... parmi ce qu'on appelle les convertis, sont plutôt dans des situations normales, au sens premier du terme. Et qu'est-ce qui les a motivés, cela ?
Alors, je pense qu'il y a une myriade de facteurs. Hein. Il y a la dimension humanitaire. On sait qu'en 2011, lorsque Bachar el-Assad réprime sa population, on a des jeunes Français, des jeunes Occidentaux qui rejoignent cette région du monde pour aider les Syriens, les civils. Sans forcément qu'il y ait une vraie, il y a peut-être une dimension religieuse parce que c'est des sunnites, ils sont musulmans, etc. Mais il n'y a pas cette dimension de violence qu'on a retrouvée par la suite. D'ailleurs, en 2011, le projet Khalifal n'existait pas encore. Donc, je pense qu'il y a cette dimension humanitaire. Il y a aussi une dimension d'aventure, hein, tout simplement. Dans chaque génération, on a des jeunes qui sont partis loin de chez eux pour se battre pour une grande cause. Moi, j'aime bien mobiliser l'exemple des Espagnols à la fin des années 30. À la fin des années 30, en Espagne, on a entre 30 et 40 000 combattants du monde entier qui rejoignent cette partie du monde parce qu'il faut lutter pour la République, etc., etc. Je crois que dans chaque génération de jeunes, finalement, on a eu comme ça des grandes causes avec des jeunes qui partaient. Et ce serait une erreur, à mon sens, de spécifier cette génération parce qu'elle serait musulmane ou il y aurait une coloration islamique derrière.
Et ceux qui rejoignent l'armée, il y a la question aussi de l'idéal de défense, la question de la loyauté, de l'appartenance à la nation. Donc pour cela, c'est le meilleur témoignage.
Oui, bien sûr. Ouais. Il y a l'idée de se battre pour une cause, se battre avec des gens, travailler en tout cas avec des gens qui ont des valeurs de solidarité, qui ont des valeurs d'abnégation, qui ont des valeurs de fraternité, parce qu'il y a ça aussi, hein, l'armée. D'ailleurs, on dit frère d'armes, hein, c'est pas pour rien. Et on retrouve la notion de Ummah chez les musulmans, donc cette espèce de fraternité religieuse. Donc je pense qu'il y a cette dimension de fraternité, il y a l'idée de se battre pour quelque chose de plus grand que soi. Alors qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui font des métiers, qui changent, hein, qui se réorientent de plus en plus. Maintenant, on voit des diplômés qui trouvent que leur métier n'a pas de sens. Donc il y a cette dimension à la fois dans l'armée de se battre pour quelque chose qui a du sens et qui est plus grand que soi. Et puis, parfois aussi, une valorisation narcissique. Hein. Je suis un combattant, j'ai un rôle dans la société. Et ça, pour des jeunes qui ont pu se sentir disqualifiés, qui ont pu se sentir marginalisés dans une société, bah, c'est quelque chose d'assez agréable et d'assez gratifiant.
Et valorisant. Maintenant, c'est l'antagonisme entre les deux. Les premiers, s'il s'agit des djihadistes, perçoivent les seconds, même s'ils sont 10 fois plus nombreux, comme étant des traîtres à leur cause. Et ce qui explique le fait de les prendre pour cible, en tout cas on les a pris pour cible tout le temps, et surtout les premières fois. D'abord, vous avez cité Mohamed Merah de sinistre mémoire. Il s'en est pris, avant de s'en prendre à des enfants innocents, aussi à des militaires innocents, tout innocent, mais c'était parce qu'il portait l'uniforme. Et on voit par la suite ces attentats perpétrés par l'Égyptien pour les militaires qui gardaient ou en tout cas surveillaient les abords du Louvre, etc. On peut prendre des exemples beaucoup plus nombreux. Il y a une exacerbation de la haine chez les militaires supposés être de confession islamique de la part des djihadistes.
Oui, parce qu'ils sont vus comme des, comme vous l'avez dit, ils sont vus comme des traîtres, des gens qui ont choisi le pays des mécréants plutôt que la fraternité et l'Oumma. L'Oumma qui est finalement quelque chose de très subjectif, parce que concrètement, quand on regarde les pays musulmans, on cherche les relations, de solidarité entre les pays musulmans. Donc effectivement, il y a eu des agressions de militaires un peu partout. Il y en a eu en France. Le plus connu, c'est peut-être Mohamed Merah qui a tué plusieurs soldats du côté de Toulouse. Mais on sait qu'en Grande-Bretagne, il y a eu des exemples, au Canada. Donc en fait, ces militaires personnifient quelque part les États impies, les États dominateurs du monde musulman, etc. etc. Donc il faut les combattre. Et ça fait écho aussi à une littérature, hein, notamment aux productions, on va dire, de Moussa Belsouri, qui dit il faut fracturer l'Occident en créant une espèce de guerre civile à l'intérieur de en son sein, en fait. Hein.
En considérant l'Europe et notamment la France comme le ventre mou de cet Occident, et Abou Moussa Belsouri a théorisé par les attentats, etc., cette fracturation.
Tout à fait. L'idée, c'est que bon, les Occidentaux sont trop forts pour nous d'un point de vue militaire. Hein. Ils ont des porte-avions, ils ont des avions de chasse, etc.
Et des arsenaux nucléaires.
Exactement. Donc, il faut les attaquer en créant des guerres civiles. Et le meilleur moyen de créer des guerres civiles, c'est d'agresser dans vos pays, en Europe, toutes les manières que vous pouvez, hein, c'est-à-dire un véhicule, un couteau, etc., pour créer une situation d'hostilité à l'égard des musulmans et puis rentrer dans un cycle, une spirale de violence. Donc, bien évidemment, quand une mosquée, par exemple, est agressée en Occident, ces djihadistes se félicitent, ces théoriciens se félicitent, parce que c'est un peu la méthodologie qui est souhaitée.
Et du côté, cette fois-ci, des militaires, quel est aussi leur état d'esprit? C'est qu'il faut combattre ces déviants, ces criminels, et aussi les ennemis de la nation.
Bien sûr, il faut les combattre.
Sans état d'âme.
Bah déjà, ils ont, comme beaucoup de musulmans, ils sont complètement consternés de voir leur corps religionnaire agir de la sorte. Donc eux ont à cœur de montrer que l'islam ne véhicule pas un message de haine tout azimut et qu'il y a une éthique à avoir.
Nous avons reçu ici même et à ce micro l'aumônier général, l'aumônier en chef, des militaires musulmans. Il m'a parlé de la loyauté de ces engagés, de ces recrues, des militaires musulmans, à la fois pour l'institution militaire, pour la nation, et donc la prise en charge spirituelle qui était, quand elle était souhaitée, de la part des aumôniers. Donc cette tristesse, ils se trouvent être affligés de voir leur propre tradition dévoyée, pervertie, avilie par le comportement de ces djihadistes. Il y a eu des cas, selon votre connaissance, de confrontation directe de part et d'autre dans un conflit entre djihadistes et militaires de confession islamique?
Alors avec des djihadistes, non, à ma connaissance, il n'y en a pas eu.
Par exemple, dans l'opération Barkhane ou dans le Sahel, ou pas nécessairement dans le Proche-Orient?
Non, par contre, on a eu un exemple d'un tireur d'élite d'un régiment de l'Est de la France, le régiment de Sarrebourg, qui a refusé d'être projeté en Afghanistan parce que ça lui posait un problème de conscience d'aller partir en Afghanistan. Donc ce qui s'est passé, c'est que il a dû démissionner. Et puis ça s'est relativement bien passé. Mais pour revenir à votre question sur la question de la loyauté et de l'allégeance, d'un point de vue historique, les soldats de confession musulmane ont toujours été loyaux, en fait. Même à l'époque coloniale, où on sait que leur solde était inférieur à celle des autres, on sait qu'il y avait une discrimination institutionnelle à leur égard, qui ne pouvait pas arriver jusqu'à un certain grade, mais il n'y a jamais eu de mouvement anti-français ou de scission interne, quoi.
Même si l'idée d'un Colin Powell, indépendamment de l'histoire du flacon montré à l'ONU, dans l'état-major français, est attendu et ça viendra. Ben c'est ça, la République. En tout cas, nous l'espérons tous. En ce qui concerne cette fois-ci parmi les repentis ou ceux qui reviennent, il y a une volonté de continuer à rester dans le même métier des armes et de revenir ou d'essayer d'intégrer une institution militaire, ou c'est hors de question?
Après ce passif-là, je pense que ça va être difficile d'intégrer des métiers militaires parce que bon, l'armée vérifie quand même les antécédents de leurs recrues. Par contre, on peut imaginer qu'ils iront peut-être vers des métiers liés à la sécurité qui sont peut-être moins contrôlés ou moins. Effectivement, il y a une appétence pour cette dimension de virilité, cette dimension d'activité liée à la sécurité.
Et il y a ceux qui déchantent très vite et qui essayent de revenir et qui se rendent compte que le paradis promis et cette vie rêvée finalement se transforme très très vite en cauchemar.
Oui, bien sûr. J'ai beaucoup d'exemples de jeunes que j'ai rencontrés en prison qui ont très vite déchanté, sont partis un petit peu naïvement avec en groupe de copains, etc. Et qui ont très vite déchanté, qui ont voulu quitter Daesh. La difficulté, c'est que Daesh avait ses propres services de renseignement qui empêchaient les jeunes occidentaux de rentrer chez eux, parfois à travers la confiscation du passeport. Et donc, s'il y avait une nouvelle positive, c'est que parmi ces revenants, ces 250-300 revenants qu'on a aujourd'hui en France, il me semble qu'on a quand même une majorité de jeunes déçus par le Daesh et qui souhaitent surtout se réinsérer après la réalisation de leur peine de prison, en fait.
Que dire maintenant des jeunes femmes, aussi bien pour l'armée que pour ce que j'appelle toujours l'entreprise djihadiste? Elles obéissent ou elles répondent aux mêmes sirènes, ou elles ont une spécificité propre sans nécessairement les discriminer à cause de leur genre ou de leur sexe?
Alors sur les femmes, pendant longtemps, on a cru que c'était des suiveuses. Plus on a d'enquêtes et plus on se rend compte que non seulement c'était pas des suiveuses, mais souvent, enfin parfois, c'était même des meneuses. C'est-à-dire qu'elles forçaient leur homme à partir rejoindre la Syrie et se battre. Donc ça, on a des exemples comme ça. On a aussi l'exemple de la tentative d'attentat à Notre-Dame, qui était commise par des femmes. Vous savez, ces bouteilles de gaz qui avaient été retrouvées dans le coffre d'une voiture. Il y a aussi une dimension de recherche de violence, d'adrénaline chez les femmes, contrairement à ce qu'on pourrait présupposer. Et puis on retrouve aussi ce parallèle de femmes potentiellement attirées par les métiers militaires. Un des exemples que je cite dans mon article, c'est celui de Asna Aïd-Boulassen, qui a participé à l'attentat du 13 novembre, qui est morte à Saint-Denis dans cet appartement attaqué par le RAID. On sait aujourd'hui, à travers des rapports biographiques, qu'elle souhaitait intégrer l'armée française. Donc on retrouve encore cette idée de combat, de participer à un collectif fort, etc., etc.
Et du côté de l'institution militaire, il y a des demandes de la part de la jeune féminine pour intégrer l'armée?
Oui, il y a des demandes. Alors ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi des logiques, je dirais, pas de discrimination, mais plutôt d'assignation. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui peuvent être attirées par des métiers très combattants, enfin, finalement, qu'on attribue généralement aux hommes. Mais parfois, on a tendance un petit peu à se dire, certains vont les orienter plutôt vers des métiers plus administratifs, comptabilité, informatique, etc. Même quand elles veulent rejoindre des régiments un peu plus durs, un peu plus physiques, type régiment de combat, d'infanterie, etc.
Et ce qui explique peut-être, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, que dès lors que pour Daesh, elles peuvent être sur le théâtre des combats ou pas?
Les seules femmes qui peuvent porter les armes chez Daesh étaient celles qui intégraient la police. Parce qu'en fait, la police de Daesh, un homme ne peut pas contrôler une femme dans la police de Daesh. Donc cette mission était dévolue à des femmes, en fait. En revanche, elles n'ont pas le droit de rejoindre le front. Donc il y a eu beaucoup de déceptions chez ces femmes-là, qui souhaitaient se battre. Même si on a vu des images de propagande avec des femmes, avec des kalachnikovs, etc., on sait que c'est de la propagande et que les soldats de Daesh étaient exclusivement composés d'hommes.
Ça n'a pas un lien direct avec notre sujet. Et paraît-il, je voulais confirmer ça auprès de vous, ou l'infirmer, que les combattants de Daesh auraient été ou ont été terrorisés, si je puis dire, ou terrifiés à l'idée d'être abattus par des femmes lors des combats avec les femmes kurdes. dont on oublie le plus souvent de dire qu'elles étaient de confession islamique et qu'elles étaient sunnites. Ce n'est pas parce qu'elles sont kurdes qu'elles n'ont pas de confession, en tout cas la plupart d'entre elles. Est-ce que c'est le cas ?
Oui, effectivement, il y a la crainte d'être abattu par une femme, parce que dans certaines croyances, alors je ne sais pas si c'est... je pense pas que ce soit coranique. En tout cas, dans certaines croyances, il est dit que être abattu par une femme, c'est s'empêcher d'accéder au paradis. En fait.
Ça, je peux vous confirmer que ce n'est pas coranique et quiconque compulse le Coran ne trouvera pas ça. Et je sais, et ce n'est même pas dans les hadiths du prophète. Alors qu'il y a même de l'ordre à mettre là-dedans. Beaucoup de hadiths sont apocryphes. Il y a beaucoup de constructions hein, et de la mythologisation. Finalement, ces choix antagoniques, divergents, totalement opposés, ne se jouent pas à grand-chose. Il y a beaucoup de similitudes. Quelle est la chose déterminante qui fait basculer dans un sens ou dans l'autre ? Le hasard, c'est aléatoire ou il y a encore un sous-produit, si je puis dire, qui serait déterminant ?
Il y a un petit peu le hasard de rencontre, hein. C'est sûr que... Un jeune de Niçois qui rencontre un recruteur de l'armée ou Omar Diaby, bah, c'est pas la même chose, forcément. Et les destins seront différents. Le second aspect aussi, c'est que tout ça, ça prospère sur un terreau social particulier. Je crois qu'on a une génération de jeunes aujourd'hui qui vit un profond malaise identitaire, qui n'est plus tout à fait étranger comme l'étaient leurs parents, qui ne sont pas tout à fait vus comme des Français par la société aussi aujourd'hui encore, malheureusement. Et donc, dans cette espèce d'entre-deux, où on est censé s'intégrer, bah, il y a des fragilités, il y a des failles identitaires, il y a des failles affectives, il y a des failles narcissiques qui peuvent être exploitées par des mouvements. Je crois qu'il ne faut pas évacuer de tout ça la question du malaise identitaire que vivent ces jeunes. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que les sociologues montrent que l'immense majorité des djihadistes sont de deuxième génération, c'est-à-dire que c'est des enfants de migrants. Donc, visiblement, lorsque vos parents sont nés en France... qui sont issus de l'immigration, on va dire, de deuxième génération, c'est un facteur de protection contre l'engagement type djihadiste, etc.
Oui, ça c'est pour les enfants issus d'eux, les fameux issus d'eux, de deuxième génération. Mais ceux qui sont issus de cinquième génération, parce qu'étonnamment, dans certains cas, il y a une catégorie de citoyens dont on n'arrête pas l'énumération de la génération. Ou ceux dont on a dit tout à l'heure par facilité de langage, les convertis. On ne retient que le malaise identitaire, la faille intérieure, les difficultés sociales. Bon, ça c'est la lecture sociologisante et la lecture psychanalytique des carences affectives, de l'absence de repères, l'absence de la figure du père, etc.
Oui, je pense qu'il y a aussi cette dimension d'étapes transitoires fragilisées, puisque si on regarde, ça c'est Fethi Benslama qui le montre bien, on a affaire à des jeunes qui ont abandonné les idéaux de l'enfance, recherchent leurs idéaux d'adultes, et aujourd'hui c'est pas comme dans les années 70 ou 80, où vous aviez 18 ans, vous passiez l'armée, vous deveniez un homme. Tout était structuré, tout était cadré, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, 18-19 ans, vous sortez de l'école, vous avez des difficultés à trouver un job, parfois ça pousse jusqu'à 23, 24, 25, 26 ans, vous êtes dans une espèce d'instabilité, une espèce de no man's land identitaire, comme je l'avais dit dans un papier. Et donc c'est difficile. Et en plus, 18-25 ans, c'est aussi l'âge où on n'est plus obligé d'aller à l'école. On n'a pas de revenus, puisque je crois que le RSA, c'est à partir de 25 ans. Donc il y a quelque chose qui vraiment favorise des formes d'engagement un peu radicales, des quêtes comme ça. Another on the way, poverty stricken, suburbia sickening, landmines planted by your local politician, keeping the people down in total submission, microwave nation, the size of wealth or inflation, in the process of world domination. What do you believe in? You have it all here. Da, you need to mashakil dunya, attention à la vie, vraiment elle est dure. Comment elle est dure. What do you believe in? You have it all here. Ta, you need to mashakil dunya, attention à la vie, vraiment elle est dure. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec le sociologue et anthropologue Yamin Setoul, nous parlons de ces choix totalement opposés, des choix divergents, antagoniques, entre ceux qui
veulent intégrer l'institution militaire et aller s'inscrire et être dans l'armée française, et ceux qui vont sur les théâtres du combat au Proche-Orient rejoindre Daesh. Les deux sont de confession islamique. Nous essayons de voir ensemble leurs motivations et comprendre ces bifurcations de trajectoire de vie. Comme vous le dites si bien, Yamine Setoun, vous êtes maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers. Et ces bifurcations biographiques, c'est comme ça que vous appelez ces trajectoires de vie qui sont modifiées. On a vu la strate sociologisante dans la lecture, la strate psychanalytique, et il y a aussi l'approche millénariste, apocalyptique, nihiliste ou pas. Et est-ce qu'il y a, ce qui nous intéresse dans l'émission, aussi des considérations théologiques et religieuses?
J'évacue pas la dimension idéologique et religieuse. Je pense que une des grandes motivations, c'était l'utopie politico-religieuse, recréer un califat, être un artisan de l'histoire avec un grand H, participer à quelque chose de grand. Je pense que cette dimension, ce rapport à la mort aussi, est très spécifique chez cette génération de djihadistes. Si on se rappelle, dans les années 90, un Khaled Kelkal, on sait qu'il meurt sous les balles du raid, en fuite. Aujourd'hui, on a systématiquement des jeunes qui, quelque part, recherchent la mort. Souvenez-vous, lors de l'affaire Mera, quand Mohamed Mera est encerclé par les policiers du raid dans son appartement à Toulouse, il dit au négociateur « Moi, j'aime la mort comme vous aimez la vie ». Pareil dans l'attentat commis par les frères Kouachi. Ils sont encerclés par le GIGN à un moment dans cette ville de Dammartin. On a des dialogues entre les deux qui sont un peu surréalistes.
Du même ordre,
tout à fait. On a un des deux frères qui est déjà blessé. L'autre lui dit « on mourra tout à l'heure, ne meurs pas tout de suite », etc. Donc c'est un rapport à la mort qui est assez nouveau finalement par rapport à tout ce qu'on avait vu avant.
Oui. Et alors, le fait de ne pas sacraliser la vie ou de mépriser en quelque sorte la vie ici-bas, ça émane d'une lecture ou d'une conception théologico-métaphysique, ou c'est parce qu'ils y sont acculés et donc c'est une justification de leurs actes, lesquels actes sont répréhensibles mais qu'ils essayent de sublimer?
Alors, je crois que c'est Farhad Khosrow-Kavar qui avait une formule qui disait « ma vie n'a pas de sens » chez ces jeunes. « Ma vie n'a pas de sens, je vais en donner un à ma mort en fait ». Et la mort finalement apparaît comme ce qui fait sens pour la vie. Une mort qui, en plus, permet d'accéder au paradis directement, etc. etc. Donc aussi cette dimension, je pense, d'accès direct au paradis et de sens, même si pour nous, bien évidemment, c'est le nihilisme.
Oui. D'aucuns disent que ce n'est pas tout à fait du nihilisme, parce que c'est ne croire à rien du tout, mais eux croient à un au-delà annoncé comme meilleur et durable, et pour y accéder, du style commettre l'irréparable, pour eux, en tout cas ces actes-là inacceptables, ils essayent de les enrober dans quelque chose de positif.
Oui, et d'ailleurs Daesh, je crois, qu'a hissé le djihad comme un sixième pilier de l'islam.
Un de ses
théoriciens, donc le djihad comme sixième pilier de l'islam, c'est du jamais vu, je crois, dans la littérature musulmane.
Vous croyez bien, parce qu'il n'y en a que cinq piliers.
Et donc
l'un d'eux a parlé de l'obligation absente.
Donc comme ça, ils ont modifié un certain nombre de... Enfin, ils ont apporté leur touche au niveau religieux pour justifier leur entreprise. Ça me fait penser aussi à la hijra, qui, chez Daesh, est une obligation. La hijra est devenue une obligation.
La hijra étant cet exode, migration, fuite, départ, rappelant l'égir du prophète. Donc ils l'ont théorisé.
Tout à fait, la hijra et la migration vers Bilad el-Shem, donc cette région qui correspond à peu près à l'actuelle Syrie, Irak, etc., cette hijra qui, si vous mourrez dans cette zone géographique en plus, vous donne accès au paradis directement, etc. On voit aussi comment les modifications, les interprétations ont été construites par Daesh.
Et pliées dans la propagande qu'est la leur, à servir leur idéologie mortifère. Et du côté de l'institution militaire, comment aussi répondre aux aspirations à la fois nationale, républicaine, mais qui se marie avec la soif inextinguible de spiritualité que tout un chacun essaye de nourrir et à laquelle essaye de répondre.
Alors, ce qui est intéressant dans l'armée, c'est que d'une certaine manière, tout le monde est croyant. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Même l'athée est croyant dans l'armée. C'est-à-dire qu'il croit en une nation qui est invisible, qui est transcendante. Et quelque part, il y a une forme de déisme aussi là-dedans. Donc, quelque part, tout le monde est croyant. Donc, quand on est croyant au sein de l'armée, qu'on croit dans la nation, qu'on croit en Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, déjà, on n'est pas forcément mal à l'aise. Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, d'un point de vue plus pragmatique, l'armée a mis en place une aumônerie musulmane depuis 2005 qui permet aux soldats de pratiquer leur foi. Vous pouvez, par exemple, manger halal dans l'armée. C'est-à-dire que la loi de 1905, la loi de séparation de 1905 dit en théorie que l'État ne finance pas le culte, sauf dans les espaces fermés. Il faut permettre à tous les Français, quel que soit l'endroit où ils vivent, de pratiquer leur foi. Et c'est là aussi qu'on voit la philosophie de cette loi qui, à mon avis, était très bien faite. C'était une loi de liberté religieuse. Il fallait permettre aux gens, même s'ils étaient enfermés dans des asiles psychiatriques, dans des bases militaires, dans des prisons, de
dans
pouvoir
des
pratiquer,
aussi.
De pratiquer leur foi. Et donc, dans l'armée, il y a une forme de facilité à pratiquer sa religion. Bien évidemment, on peut manger halal. Je crois qu'il me semble que l'aumônerie musulmane organise un pèlerinage annuel à la Mecque. On a des facilités diverses et variées pour les fêtes religieuses, etc. etc. Donc, je pense que l'armée est quand même soucieuse, parce que c'est un impératif, hein, la cohésion pour elle, c'est pas du folklore, c'est un impératif, de faire en sorte que ces recrues se sentent le mieux possible pour pratiquer leur métier dans de bonnes conditions et bien sûr pratiquer leur foi.
Et dans vos recherches, ce qui est aussi l'objet de votre étude, avez-vous rencontré des familles ou des membres d'un même quartier, surtout des membres de la même famille, qui, étonnamment, on a ceux qui se sont intégrés dans l'armée et d'autres qui sont allés rejoindre l'entreprise djihadiste?
Alors là, comme ça, je n'ai pas d'exemple en tête, mais c'est très possible qu'il y ait des exemples de djihadistes qui ont dans leur famille des soldats, famille proche ou un peu plus éloignée. C'est très, très probable, oui.
En revanche, dans un même quartier, dans une même cité, l'exemple est beaucoup plus probable.
Ah oui, bien sûr, bien sûr. On a sur Marseille, par exemple, on sait que les zones qui recrutent le plus de soldats sont les quartiers nord. Donc, quartiers très mixés, diversifiés, etc., etc. On sait qu'on a aussi des djihadistes qui sont partis de Marseille, donc très des mêmes quartiers, quoi.
Et ceux qui restent, qui sont sur place, quel regard ont-ils sur les uns et sur les autres? Celui de réprobation, celui d'admiration, ou d'incompréhension, ou d'indifférence?
Alors, je pense que vis-à-vis des djihadistes, c'est plutôt de l'incompréhension. Parce que partir à 20 ans à l'autre bout du monde, mourir pour une cause dans un pays qu'on ne connaît pas, hein, très souvent la connaissance du Moyen-Orient des jeunes n'est pas forcément très très profonde. Et puis, donc ça c'est plutôt, de la surprise, de l'étonnement, de la stupéfaction même. Pour ce qui est des militaires, en fait, je pense qu'ils sont plutôt bien vus. C'est intéressant d'ailleurs parce que j'ai vu beaucoup de jeunes dans les quartiers populaires qui souhaitaient intégrer les armées, mais qui par contre n'auraient pas voulu intégrer la police. Donc les deux institutions portent un uniforme, représentent l'État, etc. Mais il y a quand même une dichotomie qui est faite, une distinction qui est faite au niveau mental, parce que la police, ça renvoie à les gens qui vous contrôlent, la répression, etc. Par contre, l'armée, il y a une espèce d'admiration pour le côté combattant, viril, etc., etc.
En ce qui concerne la police, même si peut-être que les rapports finissent par s'apaiser maintenant, c'est dû à une sorte de répression et peut-être la manière dont les contrôles se passaient qui les a un peu refroidis, le fait d'être rabroué ou d'être maltraité au moment des
contrôles. Oui, je crois qu'on a une culture policière, à mon avis, hein, qui est un peu trop dans une culture de répression. Et peut-être qu'on devrait développer la police de proximité, c'est-à-dire qu'une police qui connaîtrait beaucoup mieux les jeunes, beaucoup mieux le terrain, qui cartographierait beaucoup plus. Ça nous servirait d'ailleurs également pour les phénomènes de radicalisation, parce que on sait que plus on connaît un espace, plus ça va être intéressant en termes de données, de renseignements, etc. Donc on est sur une police, à mon avis, qui est trop axée sur l'intervention, la répression. On a eu des tentatives à la fin des années 90 de mise en place de police de proximité. Malheureusement, on n'a pas continué l'expérience et on n'a pas fait assez on n'a pas audité, si vous voulez, les bienfaits de cette police. Et puis, un second facteur, c'est nos configurations urbaines. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même une polarisation très forte entre des quartiers populaires, souvent diversifiés, souvent plus pauvres, et des centres-villes je schématise un peu, mais plus blanc, socialement plus favorisé. Et bien évidemment, cette binarité, c'est un terreau favorable pour les tensions.
Bien. Puisque nous arrivons et nous nous approchons du terme de l'émission, à l'avenir, si vous deviez faire une projection, maintenant que le théâtre s'essouffle et il y a un tarissement de recrutement des djihadistes, l'avenir sera, pour caresser les rêves de virilité, de valorisation narcissique, etc., il ne reste que l'armée.
Il reste l'armée et puis il y a peut-être aussi du politique à injecter là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut peut-être une éducation un peu plus inclusive qui valorise un peu plus cette diversité de la société française. Je rappelle qu'on a la société la plus diversifiée d'Europe. On a la plus grande communauté musulmane, bouddhiste, juive d'Europe. Et parfois, dans nos institutions, on n'a pas toujours ce reflet-là. Je pense qu'il faut aussi développer tout ce qui est brassage social, faire en sorte que les jeunes des centres-villes, les jeunes des campagnes, les jeunes des quartiers, se mélangent beaucoup plus. Avant, le service national permettait un petit peu ça, modestement. Aujourd'hui, on n'a plus ça, donc on a des logiques de ghettoisation physique et mentale qui se sont accentuées. Puis voilà, je pense que ce serait deux pistes déjà tout à fait intéressantes pour diminuer un petit peu ces antagonismes sociaux qu'on voit aujourd'hui se développer ici et pas qu'ici d'ailleurs, un peu partout.
Merci Yamin, c'est tout le gageant que les politiques publiques et en tout cas éducatives vous suivront dans tout cela. Vous êtes sociologue, anthropologue, vous êtes maître de conférence au CNAM et vous nous avez en tout cas instruit de ces choix binaires, antithétiques, des jeunes gens qui rejoignent l'entreprise djihadiste d'un côté et ceux qui intègrent l'institution militaire.
Et merci à vous.
Merci bien. C'était Question d'Islam. Et chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son est assurée par Stéphane Desmond. Et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin.
À force de contempler le monde, on finit par admettre que l'homme est con et que le monde part en couille. Les mentalités souillées, moi je lève la tête, cherche une porte, une issue de secours. Mais il y a trop de portes qui mènent aux abîmes, l'arrache comme escorte. Je me sens mal, cherche à m'évader, s'enfuir, s'ennuire, loin des préjugés. À force de généraliser, 10 arracheurs de sacs pour 100 000 personnes honnêtes. On me qualifie de malhonnête parce que j'ai la peau pas trop nette. Parce que j'ai un nom bizarre sur une boîte aux lettres. C'est cette façon de penser qui pousse à agir de façon pas trop nette. Mec, on parle de discrimination positive. On vise celle qui porte le voile, mais en fait c'est l'islam qu'on vise. Ramène tes galles offensives, action et turbine. Y'en a marre de subir quoi. Tu devines l'envie qui reste en moi de montrer que tout ça est faux. Chez nous aussi y'a des diplômés de Sciences Po. Même des énarques manquent de peau, jugés à la couleur de peau ou au taux de délinquance en crescendo. Pareil que le pays va mal, que le PIB augmente, mais notre pouvoir d'achat chute de manière alarmante. Si on regarde bien, après avoir payé le loyer, rempli le frigo, bon nombre d'entre nous frisent le seuil de pauvreté. Entre nous ça irait mieux si les origines sociales n'étaient plus critères de réussite. En quoi je suis différent? Dans nos veines coule le même sang, même cellule, même gène, a des ADN près. En quoi je suis différent, porté par le courant de la haine. Je me noie, je suis fort, y'a trop de haine. En quoi je suis différent, dans nos veines coule le même sang, même cellule, même gène, a des ADN près. En quoi je suis différent, porté par le courant de la haine. Je me noie, je suis fort, y'a trop de haine. Je fais semblant de sourire, wesh mec, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai maté les infos, on nous prend tous pour des terroros. Les filles n'ont plus le droit de se couvrir la tête et n'ont plus le droit d'exprimer leur foi. Ce simple tissu fait d'elle dehors la loi. Levez le voile, c'est ce que je réclame. Pourquoi tant d'hypocrisie? Si tu savais combien on souffre déjà en bas de l'échelle sociale, handicapé facial. Ici la tolérance est un déficit, crois-moi on chante. Notre profession porte la croix. Stop les préjugés, le World Trade Center c'est pas moi. C'est la gangrue humaine, celle qui habite chaque être maître. Faire porter le chapeau à ceux qui déjà souffrent d'eux. Porter un nom bizarre dans le blizzard, oublié sans emploi. Quand on juge leur couleur de peau sans droit, jugé au faciès, non à la compétence. Jugé à la couleur de peau, se fiant au taux de délinquance. Et tu crois ton intégration, on y croit. Pourquoi des actes racistes ont pris du poids? Tu vois, si je me sens mal, c'est qu'il n'y a pas de mystère. En quoi je suis différent? Dans nos veines coule le même sang, même cellule, même gène, a des ADN près. En quoi je suis différent? Porté par le courant de la haine. Je me noie, je suis fort, y'a trop de haine. En quoi je suis différent? Dans nos veines coule le même sang, même cellules, même gènes, à des ADN près. En quoi je suis différent, porté par le courant de la haine. Je me noie, je suis fort, y'a trop de haine. En quoi je suis différent, levez le voile sur vos pensées. Ne sachez-vous pas qu'on est tous frères. En quoi je suis différent, porté par le courant de la haine.
Je me noie,
je suis fort, y'a trop de haine. En quoi je suis différent, dans nos veines coule le même sang, ouais. Même cellules, même gènes, à des ADN près. En quoi je suis différent, porté par le courant de la haine.
Je me noie,
je suis fort, y'a trop de haine.